France Culture.
Journal est signé Olivier Vogel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Raviver la confiance transatlantique mise à mal par Donald Trump, l'appel du chancelier allemand Merz devant la conférence sur la sécurité qui s'est ouverte à Munich. En présence de 60 chefs d'État et de gouvernement, on retrouve sur place en direct Sébastien Baer au début de ce journal. La colère de Pékin, les États-Unis recrutent des espions et cherchent à débaucher dans l'armée chinoise. La CIA a même publié une vidéo. Notre correspondant à Pékin, Sébastien Berriot, l'a visionné. Plus d'électricité, moins de gaz et de pétrole, la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, publiée ce matin au journal officiel. Bercy veut mettre un gros accent sur l'électrique. Les professionnels appellent à un choc fiscal. Il y a une trentaine d'années, elle avait été sanctionnée sur fond de racisme pour cette figure ô combien dangereuse, le backflip, salto arrière, cher à la patineuse Surya Bonaly, est aujourd'hui tendance au JO de Milan-Cortina où la finale homme a lieu ce soir. Le dossier de ce journal est consacré à la rénovation du palais des Sacres à Reims. Il a vu défiler pas moins de 33 rois de France, visite guidée avec Benoît Grossin à quelques mois de la réouverture. Comment recoller les morceaux entre l'UE et les USA cet après-midi à l'ouverture de la conférence annuelle sur la sécurité qui se tient à Munich? Le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé à raviver la confiance transatlantique mise à mal par le Trumpisme. Plus de 60 chefs d'État et de gouvernement participent à cette conférence. 115 pays sont représentés. Il sera question pendant 3 jours de sécurité internationale et de politique étrangère. En début d'après-midi, comme c'est la tradition, c'est donc le chancelier allemand Friedrich Merz qui a prononcé le discours d'ouverture. Sébastien Baer, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Culture à Munich. D'emblée, Friedrich Merz a donc donné le ton.
Oui, le chancelier a posé les enjeux de ces 3 jours de discussion avec les sujets brûlants du moment. Évidemment, la guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient, la capacité de défense européenne, mais surtout les relations transatlantiques. Friedrich Merz, qui intervient pour la première fois dans son costume de chancelier ici à Munich, évoque un ordre international en passe d'être détruit.
Entre l'Europe et les États-Unis, il s'est creusé un gouffre, un fossé profond. Nous avons compris qu'à l'ère des grandes puissances, notre liberté n'est plus un acquis, elle est menacée. Personne ne nous a contraints à nous rendre aussi dépendants des États-Unis. Cette immaturité résulte de notre propre faute.
Les règles ont changé, il faut accepter les nouvelles réalités du monde, mais pas question pour autant de tourner le dos aux États-Unis, dit Friedrich Merz.
Aujourd'hui, le partenariat transatlantique semble avoir perdu de son évidence. Mais nous nous accrochons parce que nous sommes convaincus que c'est ensemble que nous résoudrons les problèmes mondiaux. Je pense qu'à l'avenir, nous serons plus souvent en désaccord que par le passé. Mais si le respect est là, alors ce sera à l'avantage des deux parties.
Un rapprochement avec Washington qui doit rester prudent, tempère le chancelier, qui appelle aussi l'Europe à miser sur ses propres forces, à chercher de nouveaux partenaires dans le monde, Canada, Japon, Inde ou Afrique du Sud, par exemple.
Sébastien Baer en direct de Munich avec les moyens techniques de Maël Larfassor. C'est l'éternelle histoire de l'arroseur arrosé, car l'arme économique préférée de Donald Trump, les droits de douane, a surtout pénalisé les Américains. On se souvient que le président milliardaire avait conclu l'été dernier, entre deux parties de golf en Écosse, un accord avec l'UE qui imposait 15% de droits de douane sur les produits européens importés aux États-Unis. Bonsoir à Gérard Mohamed.
Bonsoir.
De la rédaction internationale de Radio France, Donald Trump avait promis que les Américains en sortiraient gagnant. Or, on apprend dans une récente étude de la Fed, la banque centrale des USA, que ce sont eux qui paient principalement ces surtaxes.
Oui, les Américains ont payé, ont supporté 90% de la hausse de ces droits de douane, à la fois les citoyens, les particuliers et les entreprises américaines. L'année dernière, Donald Trump avait décidé de surtaxer les produits en provenance de plus de 90 pays. Si on fait les calculs, la moyenne globale, ces droits sont passés de 2,6% à 13%. Alors, les exportateurs avaient deux choix, soit baisser leur prix pour ne pas perdre des parts de marché, soit répercuter cette hausse sur le prix payé par le consommateur à la caisse. Et finalement, la majorité d'entre eux ont choisi la deuxième option, ce qu'avaient prédit d'ailleurs plusieurs experts. Mais la Maison Blanche, elle, préfère retenir d'autres chiffres, celui du chômage qui recule encore un peu et les 130 000 créations d'emplois en janvier dernier dans le pays. L'inflation, elle, ralentit. Des chiffres excellent, bien meilleur qu'attendu, a commenté en début de semaine Donald Trump. Le président américain n'est pas prêt de remettre en question sa politique commerciale offensive.
Agera Mohamed, merci. Alors dans l'imposante caisse à outils martial de Donald Trump, il y a aussi l'espionnage et il est au cœur d'un nouveau bras de fer entre les États-Unis et la Chine, car Pékin est très en colère après la diffusion par la CIA d'une vidéo dans laquelle l'agence américaine de renseignement assume sa volonté de recruter des espions au sein de l'armée chinoise. Une vidéo qui n'a pas été publiée par hasard à un moment en particulier pour l'armée chinoise qui voit ses têtes tomber depuis plusieurs mois. Les explications de notre correspondant en Chine, Sébastien Berriot.
Dans cette vidéo diffusée en mandarin, la CIA met en scène un officier chinois imaginaire qui décide de contacter l'agence américaine. À travers les images et les commentaires, on comprend que le soldat, en perte d'illusion, a fait le choix des États-Unis après s'être rendu compte que les responsables chinois, dit la vidéo, ne protègent que leurs propres intérêts. Un message de propagande qui permet à la CIA d'afficher ouvertement sa volonté de recruter des espions au sein de l'armée chinoise en profitant du moment de fragilité qui touche en ce moment le pouvoir militaire de la Chine. Presque tous les membres de la puissante commission militaire centrale ont aujourd'hui été évincés, et notamment le dernier en date, il y a quelques jours, le général Zhang Yuxia, numéro 2 de l'armée, écarté pour non-respect de la discipline. Rien n'a filtré sur les raisons précises, mais selon le Wall Street Journal, le général a été écarté précisément pour des faits d'espionnage au profit des États-Unis. Ce soir, le régime chinois dénonce cette vidéo et promet des mesures pour faire face aux tentatives de déstabilisation.
Électrifiée pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, a été publiée ce matin au journal officiel. Pour les différentes filières, c'est une feuille de route sur leurs objectifs de production pour les 9 prochaines années. Les professionnels du secteur électrique ont lancé aujourd'hui un appel à un choc fiscal, car pour lever le pied sur le pétrole et le gaz, Bercy mise donc sur un grand plan d'électrification dont l'objectif, Jeanne Serrin, est de relancer le consommer plus.
C'est la condition de la réussite de cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Car pour l'heure, la France est en surcapacité électrique. On en produit plus que l'on en consomme. Le défi dans les 10 prochaines années est donc d'augmenter la demande. Le gouvernement mise tout d'abord sur des mesures pour les ménages, la prolongation des aides au développement des pompes à chaleur et celle pour l'achat de véhicules électriques ou encore la reconduction de la location sociale, le fameux leasing social. Mais la demande devra aussi être drainée par les industriels. Bercy veut donc soutenir les projets de décarbonation. C'était le sens de la visite d'Emmanuel Macron cette semaine sur le site d'ArcelorMittal, qui a inauguré son premier four électrique. Le gouvernement parie surtout sur l'installation future de data centers.
Ah oui, alors ça, c'est le système miracle.
Jacques Percebois, économiste et spécialiste de l'énergie.
Les data centers, ça consomme beaucoup. Et un des atouts de l'Europe, et en particulier de la France, c'est qu'on a un réseau de transport-distribution qui est très fiable. Donc ça peut être une incitation pour les data centers à venir en effet en Europe et notamment en France.
Mais pour l'économiste, le principal frein à l'électrification reste aujourd'hui le prix de l'électricité.
Alors un des problèmes du prix de l'électricité pour les artisans ou la petite industrie, c'est évidemment le niveau élevé des taxes, puisqu'on a un paradoxe, l'électricité est plus taxée que le gaz fossile.
D'où cet appel de la filière aujourd'hui à un grand choc fiscal pour réduire la taxe sur l'électricité, appelée l'assise, pour les ménages et les entreprises.
En France Culture, il est 18h et presque 10 minutes. La cour criminelle de Vannes a rendu aujourd'hui une nouvelle série de décisions concernant l'indemnisation de plusieurs victimes de Joël Le Squarnec. Cet ancien chirurgien de 75 ans a été condamné en mai dernier à la peine maximale 20 ans de réclusion pour des viols et agressions sexuelles commis de 1989 à 2001 sur près de 300 victimes, pour la plupart de jeunes patients, garçons et filles, mineurs au moment des faits. Beaucoup ignoraient avoir subi ces agressions, parfois commises sous anesthésie. D'autres audiences sont encore prévues dans les prochains mois. La question des indemnisations reste complexe. Elle s'évalue en fonction des préjudices subis, viols ou agressions sexuelles. Mais la Cour a également retenu un préjudice particulier accordé aux victimes qui en ont fait la demande. Un préjudice spécifique de crime sériel, explique l'avocate Louise Aubray-Lebas, qui défend une quinzaine de parties civiles. Elle répond à Florence Sturm.
Les victimes de Joël Le Squarnec ont subi un préjudice particulier, lié notamment au traitement judiciaire, parce qu'elles étaient extrêmement nombreuses et que du coup, elles n'ont pas eu un traitement judiciaire classique. La première composante, elle est liée à l'annonce des faits. La Cour a considéré que l'annonce n'avait pas été individualisée pour chacune des victimes, hein, que les enquêteurs avaient été vraisemblablement dépassés par le nombre de victimes, qu'ils avaient dû répondre à un canevas de questions et que du coup, ils n'avaient pas personnalisé les questions et surtout l'accompagnement des victimes. Il n'y avait personne qui était là pour les accompagner pendant leur audition, après leur audition. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est au niveau de la durée de l'audience. La Cour a considéré que les victimes avaient dû supporter une durée d'audience de 3 mois, qui du coup est liée au nombre de victimes et donc à la sérialité, et que par conséquent, elles avaient subi un préjudice spécifique du fait de la longueur de cette audience et du fait que pendant 3 mois, les victimes étaient confrontées à leur propre souffrance et à leur propre histoire. Ce préjudice, effectivement, il n'avait pas été reconnu en France, c'est la première fois. Et c'est bien que ça soit dans l'affaire Le Squarnec, ça s'y prêtait complètement au vu de l'ampleur du dossier et du nombre très conséquent de victimes. Peut-être que le procès Le Squarnec va permettre de servir de leçon pour une prise en charge meilleure des victimes dans l'avenir et notamment dans ces grands procès.
Le musée du Louvre semble bien englué dans une série noire après le casse du siècle, après une fuite d'eau qui avait endommagé des revues anciennes, après la révélation d'une fraude à la billetterie avec un préjudice de 10 millions d'euros, une nouvelle fuite d'eau s'est produite la nuit dernière. Au niveau d'une canalisation de chauffage, plusieurs salles ont dû être fermées aujourd'hui et un plafond peint au 19e siècle par l'artiste néoclassique Charles Meynier, le triomphe de la peinture française, a été endommagé. Les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina se poursuivent en patinage artistique. La finale homme se déroule ce soir à Milan. Elle devrait être ponctuée par le sacre de l'Américain ultra-favori Ilya Malinin, double champion du monde en titre. Un patineur que le public adore car il est adepte, tout comme le Français Adam Siaouimfa, du backflip, un salto arrière sur la glace, figure longtemps interdite et autorisée depuis 2024 seulement. Mais malgré les applaudissements, ils ne sont pas du tout les premiers à l'effectuer. Le tout premier, c'était Terry Kubica, américain, lui aussi, en 76, lors des Jeux d'Innsbruck en Autriche. Mais celle qui a été encore plus loin, Marion Ferrer, c'est une femme, la Française Souria Bonaly.
Ce salto arrière sur la glace, Souria Bonaly l'effectuait, elle, en se réceptionnant sur un seul patin. Mais en 1998, lors des JO de Nagano au Japon, elle est sanctionnée pour l'avoir réalisé avec succès et termine 10e. À l'époque, Souria Bonaly se souvient essuyer les foudres du milieu.
Je me rappelle, je faisais le salto juste pour le dire, je fais un salto à l'entraînement comme quand je fais une pirouette. Et le salto, j'avais des profs ou des juges qui disaient, c'est interdit qu'elle fasse le salto à l'entraînement officiel de compétition. Mais je vois, il y a Malinine qui le fait, parce qu'il le fait à la demande de Snoop Dogg, machin truc. Tout le monde rigole et tout le monde applaudit et met 50 000 likes parce que c'est cool.
Un changement que salue évidemment la championne.
Le patinage a commencé à évoluer. Enfin, ça a pris du temps.
Mais elle est aussi consciente d'avoir été victime au cours de sa carrière de racisme, la privant notamment, on s'en rappelle, du titre mondial, victime aussi de misogynie.
J'imagine que si ça avait été fait par un mec, un gars, ça n'aurait pas pris autant de proportions. Dans le temps, quand je le faisais, c'était juste mal vu, juste parce que j'étais déjà une femme.
Mais pas question pour elle d'être amère aujourd'hui.
Plutôt fierté, amertume, non. C'est fait, j'oublie pas. Non, j'ai pas oublié. et tout le monde sait bien comment ça s'est passé.
D'autres, en revanche, sont bien décidés à rappeler à quel point la quintuple championne d'Europe a bousculé les codes, comme Chloé Sellerien, autrice de la bande dessinée Souria Bonali, Le feu sur la glace.
Il faut comprendre qu'il y a dans le monde du patinage artistique un avant et un après Souria Bonali. Elle a été adoptée, elle est noire, elle a grandi dans un milieu très populaire, elle va faire de la gym, et donc elle va apporter cette dimension acrobatique. Et là où les autres filles à l'époque faisaient aller deux tours, elle, elle arrive, elle en fait deux, elle en fait trois, elle en fait quatre.
La journaliste espère qu'en 2030, lors des JO d'hiver dans les Alpes françaises, la France rendra enfin un véritable hommage à sa championne.
Marion Ferrer. De Louis le Pieux à Charles X, pas moins de 33 futurs rois de France y ont séjourné entre les 9e et 19e siècles. C'est le palais d'Utaux, l'ancienne résidence des archevêques, adossée à la cathédrale de Reims. Sa restauration complète doit s'achever à la fin de l'année pour en faire un musée du sacre. 5 ans de rénovation pour une facture de 40 millions d'euros. C'est l'un des grands chantiers du Centre des Monuments Nationaux et c'est le dossier de ce journal. Bonsoir Benoît Grossin.
Bonsoir Olivier, bonsoir à toutes et à tous.
Ce bâtiment, dont les fondations datent du 5e siècle, abritait les têtes presque couronnées lors des cérémonies du sacre. Et les travaux se poursuivent activement dans sa partie la plus ancienne, la chapelle palatine, avec l'installation d'immenses vitraux contemporains.
Avec des bâches à l'extérieur et des échafaudages à l'intérieur. Cette chapelle palatine, gravement endommagée par des bombardements pendant la Première Guerre mondiale, est chargée d'histoire.
Cette chapelle qui date du XIIIe siècle, où venaient se recueillir les rois avant le sacre.
Marie Lavandier, présidente du Centre des Monuments Nationaux.
Un lieu qui avait ce rôle dans cette cérémonie du sacre des rois de France. Les vitraux en avaient été remplacés par de simples grisailles. Et donc on a procédé à une commande artistique auprès d'Anne et Patrick Poirier, qui sont d'immenses artistes. C'est une proposition qui est magnifique, qui a été complexe. On a mobilisé deux ateliers de vitrail différents, l'atelier du chemin d'un côté et l'atelier Simon Marc ici à Reims. Une démarche de revivification en quelque sorte du patrimoine par un regard contemporain.
Avec le motif des plis comme source principale d'inspiration pour le couple d'artistes Anne et Patrick Poirier, créateurs de 14 baies contemporaines pour la chapelle.
Comme notre travail part toujours de l'histoire et des détails qu'on a pu discerner dans un espace, les plis sont venus parce que le bas de la cathédrale est sculpté de plis. Vous avez les saints qui sont posés sur ces plis et qui sont eux-mêmes tout en drapés. À l'intérieur du palais d'Utaux, vous avez toutes ces tapisseries le long des murs. Donc ça nous a donné le déclic.
Nous avons choisi les couleurs du spectre qui sont vraiment les couleurs de base de la lumière. Et donc on a repris cette idée de la tenture comme protection contre le froid et donc des couleurs qui réchauffent.
Ce qu'on voulait, c'était redonner un peu de couleur aussi à l'architecture. Parce que ces baies sont quand même très hautes, 8,50 m de haut. Ça se diffuse, que ça enveloppe la chapelle, lui redonner une âme.
Et c'est en mélangeant l'ancien et le contemporain que le nouveau parcours de visite, présenté comme immersif dans l'ensemble du palais d'Utaux, selon son administrateur Jocelyn Bourali, permettra non seulement de découvrir, mais aussi de vivre la cérémonie du sacre.
Le projet que porte le Centre des Monuments Nationaux pour le palais d'Utaux est un projet global. Au-delà du volet gros œuvres, nous portons une refonte scénographique du sacre des rois de France. C'est un parcours qui s'adressera au sens autant qu'à l'intelligence. Il donnera à voir, à toucher, à entendre et à comprendre. Donc nous présenterons bien sûr en majesté des pièces uniques qui sont d'authentiques trésors, tels que le reliquaire de la Sainte Ampoule, le calice du sacre, le manteau du sacre de Charles X. Alors les volumes qui étaient ceux de l'ancien parcours sont respectés. Par contre, la scénographie, elle, est entièrement renouvelée. Tout le parcours de visite sera jalonné d'œuvres qui ont été commandées à des artistes d'aujourd'hui, les époux Poirier, mais il y aura aussi Hubert Le Gall, Johan Créten, et puis un audiovisuel qui est une œuvre de vidéaste confiée à Christophe Honoré. Cet audiovisuel de quelques minutes évoquera les principales étapes de la cérémonie du sacre.
Et à sa réouverture au public, l'hiver prochain, le Palais d'Utaux doit présenter dans ses salles quelques 270 œuvres, dont un tableau gigantesque du XIXe siècle de François Gérard, sur le sacre de Charles X prêté par le Musée national du château de Versailles est considéré comme un condensé, une synthèse presque parfaite du cérémonial du sacre à Reims.
Merci Benoît Grossin. Votre dossier complet sur le futur musée des sacres est à découvrir dans la rubrique L'info culturelle en une du site internet de France Culture. La météo, moins de vent mais encore de la pluie un peu partout. La Gironde et le Lot-et-Garonne restent en niveau rouge cru majeur après le passage de la tempête Niels. De nombreux autres départements de l'ouest au bassin parisien sont en orange pour les mêmes raisons. Demain, prévoyez un rafraîchissement des températures avec de possibles gelées au lever du jour au nord de la Seine. Le temps restera pluvieux avec des éclaircies prévues dans la journée sur la moitié nord. C'est la fin de ce journal réalisé par Alison Vicrobeck. Guirec Corbin était à la technique.